Bon, alors, comme exergue à cette petite rêverie rétrospective, je dirais, je ne dis pas nostalgique, je proposerai cette phrase de Gilles Deleuze. L'art n'est pas fait pour informer, mais pour lutter contre la mort. À quoi j'ajouterai, enfin un peu du bout des lèvres et en m'excusant, cette petite remarque de Walter Benjamin. L'artiste fait une œuvre. Le primitif s'appuie sur des documents. C'est lui qui dit ça. Enfin, disons que j'aimerais adopter une formule, disons, plus conciliante à propos de l'auteur d'un documentaire et proposer c'est un primitif artiste. Avec une variante, c'est un artiste primitif. Donc, le documentaire, un mot de réputation assez ambigu. Hein. Si on ouvre le vieux Bornec pour chercher l'étymologie latine, le documentum, bah, semble-t-il, une vocation tout à fait pédagogique, je dirais même scolaire. Documenter, distribuer des connaissances, dispenser un enseignement, instruire, etc., produire un dossier, des documents à l'appui, etc. Et évidemment, dans ce sens, vous n'avez pas de quoi réjouir les écoliers turbulents qui étaient rassemblés au Rueil Palace en 1944, contraints de subir avant la projection du grand film un documentaire sur la pêche à la sardine, ce qui a amené Raymond Queneau à noter « Les gosses, ça les emmerde, le docu-cu. Et comment ?» Gageons aussi que dans le documentaire radiophonique sur le rail, je crois, le Paris-Brest de 1946, je crois, dont vous avez évoqué, je crois, aujourd'hui, disons que probablement les soupirs, les éructations, les états d'âme de la locomotive étaient puissamment étayés par un copieux commentaire explicatif, méticuleusement rédigé et lu probablement par un speaker à la voix mâle et grasseyante. C'est-à-dire qu'au fond, le fauteuil de l'auditeur assimilé un peu au banc de l'école. Et la plume venant au secours du micro. Bon, il paraît que de nos jours, les choses ont évolué, heureusement. Alors, pour ce qui est de l'atelier de création radiophonique, que dire d'abord du paysage sonore dans lequel s'enracine le programme à ses débuts en octobre 69 ? L'histoire n'étant pas en fait une science exacte, je me bornerai à quelques observations à propos du contexte de l'époque. Le concept de radiophonie, d'art radiophonique, disons, l'idée d'une spécificité de l'objet sonore diffusé sur les ondes, de toute évidence a pris un nouvel essor dans l'euphorie, disons, de l'immédiat après-guerre. Le studio, le club d'essai, les travaux de Pierre Schaeffer, etc. etc. Ça n'a pourtant pas empêché Antonin Artaud, fin 47, début 48, juste avant de mourir, de s'époumoner dans le vide et de conclure désabusé, là où est la machine, c'est le gouffre et le néant. Une machine qui, à ce moment-là, est encore assez rudimentaire, on pourrait dire. Le Nagra n'est pas opérationnel, la stéréophonie pas encore au point. Et puis, bientôt, le petit ruisseau sonore va se trouver débordé par les torrents d'images déversés par la télévision. En fait, le club d'essai ferme ses portes à la fin des années 50. Années 60. Bien, le champ d'expérimentation radiophonique est ainsi laissé un peu en friche, cerné de toutes parts par ce que Jean Tardieu appelait le blabla et la zizique. Le blabla, c'est-à-dire la parole triomphante, le son lui-même étant en général relégué au rang d'appoint de simple accompagnement. Alors, laissons de côté, bien sûr, le bavardage d'antenne, où là, c'est évident, mais même dans bon nombre de programmes dits élaborés, c'est la voix qui est privilégiée. Et la voix, je dirais, porteuse de texte. On imprime du texte sur la bande magnétique comme sur une page. Et l'œuvre est écrite à l'avance. Et paradoxalement même, certains entretiens sont écrits à l'avance, André Breton et d'autres. Et au sommet de la hiérarchie, alors évidemment, on trouve, trône, ce que, dès le début d'ailleurs des années 30, certains avaient appelé la théâtrophonie. C'est-à-dire des récitations comédiennes et quelques illustrations brutistes, etc. Alors à ce moment-là, le studio, c'est une sorte de scène, on pourrait dire, une scène à huis clos. Lourdes portes capitonnées, parois molletonnées, des faux parquets, des bancs de sable, des panneaux mobiles, des châssis de fenêtres et de portes bâillant sur le vide. En fait, tout un dispositif conçu pour un théâtre du simulacre. De la reconstitution, de la simulation du réel. Un tréteau du faux-semblant, de l'illusion, quoi. Du trompe-l'oreille. Et donc des opérations secondes, des opérations dérivées, on pourrait dire. Et alors, bon, les paroles, un peu comme des papillons à moitié chloroformés, s'extirpent de la chrysalide littéraire pour une espèce de pavane somnambule, ou bien, on pourrait dire, de danse de mort. Et puis éclate mai 68. Je vais un peu vite, mais bon. La scène se déplace alors dans la rue. La rue, on peut lire sur un panneau ce slogan d'étudiant, pas le temps d'écrire. Donc là, c'est le monde qui vient frapper à la porte du studio. Le monde avec sa fièvre, son effervescence, son imprévisibilité. Le monde au présent. Un chantier immense. Dès lors, il a semblé tout à fait nécessaire, je dirais même urgent, de remiser au plus vite dans un coin, disons, moins éclairé, les brochures, les partitions, les livrets, et d'ouvrir, j'allais dire, d'éventrer la maison ronde, la maison close. Que le studio cesse d'être le temple, disons, le temple ou le tombeau de l'écriture, et que le studio se fasse atelier. C'est-à-dire un petit hangar traversé de courants d'air, un espace précisément de lutte contre la mort. Un lieu où serait travaillée une matière vivante, en gestation, en vibration, en ébullition, et une matière pour l'essentiel puisée à la source. Alors, est-ce qu'il faut conclure de là que le label documentaire allait être placardé à la porte? Non, bien sûr. L'idée était d'ailleurs plutôt de réfuter précisément la notion de genre. Hein, ce découpage cadastral du pré-radiophonique en parcelles, en catégories étanches, aux codes rigides, invariants, etc., grâce auxquels, d'ailleurs, les chaînes de radio, au fond, sécurisent leur grille. Alors, l'atelier, un programme hebdomadaire, un rendez-vous régulier, d'écoute, mais évidemment pas soumis à la logique de la série. L'ambition étant plutôt de faire de chaque émission une sorte d'aventure, une petite aventure, et d'accorder chaque démarche, au propos lui-même, sans se référer à des modèles ou à des silhouettes imposées, etc. Donc partant des œuvres hybrides, métissées, avec des titres volontiers elliptiques, un peu intrigants, comme ça, pour préparer la surprise de l'écoute. Si on tenait absolument à une étiquette, je dirais des films sonores, voilà. où se succéderaient, se mêleraient des plans d'énonciation variés, où se combineraient des sons sans hiérarchie, sans clivage, avec naturellement aussi le verbe, bien sûr, parfois. Mais le verbe, plus du tout en situation obligatoirement dominante, mais au fond entouré de sons qui ne sont plus assujettis. Entouré de sons de pairs, disons. P-A-I-R-S, évidemment. Alors, à vrai dire, évidemment, le grand format initial de l'ACR, c'est-à-dire 2h50, c'est énorme, a pu favoriser justement un développement d'œuvres voyageuses, d'œuvres vagabondes un peu. Des traversées de paysages, de milieux divers, au cours desquelles justement pouvaient être délaissées les autoroutes de l'information, comme on dit, au profit, disons, de chemins plus forestiers, de chemins de traverse. Des trajets au zigzag, des détours, des effets de détournement, des digressions, des rencontres imprévues. Et des escales, oh oui, un temps pour la divagation, pour la flânerie, de libre randonnée. Alors naturellement, au fil des années, le programme a rétréci. Hein. 2h50, 2h20, 2h, 1h55, 1h25, etc. En 2001, il n'était plus que de 1h25. Voilà, c'est comme ça l'évolution. C'est-à-dire la moitié de la durée initiale. Mais au fond, peut-être on a gagné là une sorte d'homogénéité, on pourrait dire, mais évidemment au détriment du nomadisme premier. Mais néanmoins, la fin restait toujours de prendre son temps, de prendre le temps de creuser la surface des choses, de prendre le temps d'entrer dans la tête d'une personne, dans le labyrinthe d'une pensée, d'une démarche créatrice, dans le ventre d'un son, etc. Au fond, prendre le temps de rêver le sujet, quel qu'il soit. D'ouvrir, par exemple, le réseau polyphonique qui est susceptible de se développer à partir d'un thème, à partir d'un concept, d'un mot, d'un lieu, d'un événement, d'une activité, d'une personne, d'un groupe social, d'une œuvre, d'un conflit. Aucun sujet n'étant tabou au départ, la seule exigence étant celle d'une potentialité sonore suffisamment riche dans l'approche aussi bien que dans le traitement. Et aussi celle d'une complète implication à tous les stades du travail dans une démarche sensible, personnelle. Ce qui ne signifie pas narcissique. Où le regard n'est pas à tout prix d'ailleurs fixé sur un supposé horizon d'attente de l'auditeur, pas plus que sur des faits spectaculaires ou anecdotiques. Vous savez, les trains qui ne se mettent à exister que lorsqu'ils déraillent, comme dit Pérec, ou bien les voitures qui ont pour unique raison, mission, de rencontrer des platanes. L'enjeu étant plutôt de faire, comment dire, ressentir les tensions qui s'exercent derrière l'état des choses. Le feu qui couve, ce qui est en suspens, ce qui est dans l'air du temps, comme on dit. Il y a un philosophe italien qui dit « Regarder le contemporain, c'est regarder son temps pour en percevoir non les lumières, mais les ténèbres. » Alors voilà, oui, le sous-jacent, un peu. Pérec parlait de son côté de l'infraordinaire, mais aussi les fêlures, les ruptures de cadre, l'envers du décor, les coulisses. Je parlais tout à l'heure d'une matière pour l'essentiel puisée à la source. Oui, oui, oui. De préférence, donc, des sons choisis, captés, in situ, comme on dit. Des sons de nature, non d'après nature. Comme ceux fabriqués dans le no man's land du studio, vous savez, cet espace théoriquement neutre, mais non marqué, non coloré, espace sans qualité, on pourrait dire, espace de nulle part, coupé du monde extérieur, et auquel peut-être on pourrait appliquer, en un premier temps du moins, la métaphore de la prison. La prison. Cela m'amène à évoquer justement une expérience d'enfermement. Voici un extrait tout d'abord d'un programme intitulé « Paroles du dedans » qui a pour cadre précisément une centrale où certains détenus, des condamnés d'ailleurs à de très longues peines, ont la possibilité de se livrer à des activités de réinsertion. Et donc à l'intérieur même de l'espace pénitentiaire, il y a un atelier de menuiserie par exemple où ils peuvent couper, travailler le bois. Et il y a aussi un studio où ils peuvent couper le son et puis produire, fabriquer de petites pièces sonores. Alors le studio ici, bien sûr, une espèce de prison miniature à l'intérieur de la grande forteresse, mais protégée des stridences, des bruits mesquins, comme dit l'un d'entre eux, qui sont tout à fait réverbérés, exagérément réverbérés dans l'espace carcéral. Le studio où Philippe, un des détenus, aime s'abstraire de l'environnement immédiat, justement, en écoutant des cassettes de nature. Cette nature qu'il a perdu l'habitude d'entendre. La mer, les oiseaux, la forêt, etc. Mais évidemment, le son de la cassette n'est pas tout à fait identique à celui qui existe à l'extérieur, en plein air. Les tourterelles, par exemple, ont une voix un peu, comment dire, amortie. Alors, pour sa petite composition sonore, il va plutôt, faute de mieux, disons, faire appel à des instruments d'évasion à partir de documents d'archives. Mais après tout, le son, c'est une sorte de pigeon voyageur, c'est un passe-muraille. Le son comme le rêve, dit l'un des détenus d'ailleurs. Alors, parole du dedans, c'est donc au fond, entre autres, un travail justement sur cette dialectique un peu du dehors et du dedans.
La nuit, le silence qu'il y a là-dedans, c'est infernal. Il n'y a pas de bruit. Et hier, justement, il se baladait dans les couloirs, il se passait des choses. Il y avait un événement hier soir qui se passait. On dit un événement qui met tout de suite en alerte. Alors ça, on est excité, on est tout. Vous voulez savoir, vous deviez être là. Parce que ce qui est désolant, c'est qu'il y a une porte. Et c'est incroyable, cette porte, c'est vraiment une barrière. C'est une barrière mentale, cette porte. Parce que même quand je pense à des événements qui se passent de l'autre côté de la porte, je sais que je ne peux pas la passer, je ne bouge même pas. J'ai pris l'habitude de cette porte. C'est vrai que si elle s'ouvre et qu'on viendrait me dire le chemin, vous êtes libre, j'hésiterais. C'est incroyable, hein. Bon, mais j'irai quand même, hein, je vous dis, hein, si la porte s'ouvre, j'y vais même en courant. Hein, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. C'est une image, hein, restons dans les images. Quand même.
Mais il y a une petite marque d'hésitation, de surprise.
Et il y aura un moment de surprise, voilà. Là. La bande, elle s'intitule Illusion. Illusion ou allusion. C'est une illusion à quelque chose de réel.
De
oui, j'ai utilisé de la pluie, divers appareils volants, genre hélicoptère, jet, à réaction, voix de détenus, et en composé une chanson, enfin d'un orchestre même, d'un ensemble, et une jungle, des sons du réel en archive. Et j'en ai moi aussi des sons du réel dans le cerveau, j'en ai plein. C'est vrai que là où il y aurait eu encore plus de joie et d'intérêt, c'est si j'avais été moi-même les chercher ces sons.
There's nothing there. Tu sais, j'ai une image terrible ici en prison. J'ai voulu sortir de prison à un moment. C'était une période un peu difficile quand j'arrivais ici. J'ai voulu m'évader un peu et regarder par la fenêtre. Et tu sais comment la configuration de notre cellule, en fonction de la lumière, jeu de lumière, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'étais comme ça à table, j'ai voulu regarder dehors, et d'un seul coup, ça a été un peu le vide, comme ça. Puisque je voulais sortir, je voulais regarder un peu le paysage, tout ça. Et quand j'ai regardé vraiment, concrètement, c'était ma propre image dans la glace, qui me renvoyait mon image et le fond de ma cellule. Bon, ce jour-là, ça a été terrible, quoi. C'est quand on perd et qu'on prend conscience qu'on a perdu réellement la liberté, qu'on se dit la liberté, elle est belle. Parce que c'est la vie, c'est la vie, hein. C'est les enfants, c'est la grand-mère, c'est tout. C'est la nature, c'est un oiseau, c'est tout, quoi. Ce qu'on n'a pas essayé, quoi.
Alors, se frotter à la réalité, opérer la réalité, voilà au fond l'acte documentaire par excellence. Réalité réelle, bon, enfin, la terminologie souvent sujette à des controverses, mais bon, disons, ici, la réalité, envisagée comme un signe sensible, un signe concret d'articulation du réel. Une réalité qui d'abord, bien sûr, existe indépendamment de nous, je veux dire, qui est aradiophonique. Et que, malgré tout, on est parfois tenté d'appréhender comme si c'était une donnée, comme si il suffirait d'observer un peu passivement et de faire un prélèvement mécanique. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce à quoi s'essaie un personnage. C'est un cinéaste dans un film de Wenders que j'aime bien, qui est-ce qu'on tend au fond échapper à l'arbitraire de toute captation, aux choix qui sont nécessairement subjectifs, bon, espérant donc saisir les choses même à l'état brut, en les laissant tout simplement s'engouffrer dans la machine, il se met à errer au hasard un peu. En aveugle, disons, dans la ville, avec des tampons dans les oreilles, les yeux à moitié clos, puis les appareils techniques dans le dos, comme ça, et branchés sans arrêt. Évidemment, c'est oublier que tout dispositif d'enregistrement impose ses propres codes, ses cadrages, etc. Prise de son, prise de sens. L'inscription du son n'est jamais innocente. Pas plus que sa diffusion, d'ailleurs. Aucun média n'est transparent. Et c'est oublié aussi que si le microphone peut être assimilé, disons, à une sorte de lanterne sonore, on pourrait dire, hein, capable de balayer un espace jusque dans ses arrières, là même où l'oreille la plus fine se révèle sourde, ben, il ne fait en fait que tailler, découper dans la réalité. Son aire de détection est limité. De même que notre perception à nous n'est jamais intégrale. Hein. Les choses se donnent par profil, on pourrait dire. La réalité nous parvient à travers une sorte de clignotement. Voilà. Avec le son qui, au fond, est une partie simplement, une portion de la chose. Comment dire, c'est la chose elle-même, le corps, l'objet, enfin, qui nous dit adieu. Qui s'absente, qui délègue son ombre, voilà. Le son est toujours un peu orphelin. Alors bien sûr, on peut évoquer sa densité, sa matérialité, réelle en fait. Monter, par exemple, qu'est-ce que c'est que monter? Ben, c'est au fond travailler un peu comme un sculpteur. Hein, quelqu'un comme Pierre-Henri, par exemple, parle du toucher le son. Chaque pore de la peau, on pourrait dire, est une sorte aussi d'oreille. Mais ce son, si consistant soit-il, il est avant tout fantomatique, volatile, évanescent. C'est une ombre portée, une ombre déportée, emportée, tout ça. Appelée à se dissoudre au plus vite et à s'éclipser comme le fantôme surpris par l'aube. Alors l'auteur de radio est donc ainsi confronté constamment à ce phénomène de présence, absence, apparition, disparition. Le réel est un champ énergétique, traversé de force, d'intensité, un théâtre de situation, sans cesse en évolution. Et donc, au sein duquel il faut se tenir constamment en alerte sur le qui-vive, s'adapter, réagir, interpréter, au besoin même provoquer parfois si les choses ne sont pas assez manifestes, et qu'il faut d'une certaine manière indexer à soi. Pas dans un geste prédateur d'appropriation, mais en fait qu'il faut approcher au plus près. Alors autant dire que tout est une question, dans cette activité, tout est une question d'écoute. Une écoute active, intense. William James affirmait que la réalité se dissipe avec l'attention. Alors voilà, tendre l'oreille, tendre, entendre, attendre, l'attention, la tension, le désir, un mouvement en direction de et d'incessantes accommodations. Viser le réel, disait Deleuze, viser le réel et non pas imaginer le représenter. Et en effet, plus que le son ne représente, on peut dire qu'il résonne. Avec lui le sens, bien entendu. Ainsi, l'opération radiophonique, on pourrait dire, est en quelque sorte un travail sur le temps de la résonance, une élongation intermittente du temps, sculptée de temps, disait Tarkovsky. Donc résister aux enchaînements, aux mécaniques, aux gammes, aux litanies, etc. Un jeu du plein et du vide. Travailler avec le silence. Le silence qui est essentiel, le silence qui se dépose dans le corps, un peu comme une neige feutrée, douce. La neige qu'on trouve, par exemple, en Laponie. Alors, voilà, maintenant, si vous voulez, deux petits extraits très courts d'un programme intitulé « Du côté de la Terre Sam », dans lequel les tableaux, on pourrait dire, surgissent l'un après l'autre et tour à tour s'évanouissent dans le blanc, dans la neige, dans le silence. La neige qui étouffe les sons dans la nuit qui est ininterrompue à ce moment-là, en décembre. Des sons, on dirait, bu par le paysage, teintés des couleurs du lieu, transportant des morceaux de territoire avec eux. Et des voix rouillées par le froid. Des voix atmosphériques, des paroles de dessous la neige, on pourrait dire. Et des paroles rentrées, qui mûrissent lentement dans la bouche, ralentis, clairsemés, et où la coulée du temps est perceptible, et où on se laisse deviner, disons, le déroulement, la fabrique de la pensée. Un poète Lapon qui dit « Je sens les pensées cheminer dans ma tête ». Et voilà. Et l'enjeu, c'est donc, en toutes circonstances, on pourrait dire, de faire affleurer dans le champ acoustique justement ce sillon qui est creusé à l'intérieur des têtes. Artaud disait le bruit de la pensée. Alors voilà, ouvrir un peu l'atelier du pré-langage, laisser tomber doucement ce qu'on pourrait appeler la rosée du son. Laisser résonner.
Pues saco porra que
ya medle la de
moco
onda de castora tais anda calda de
conjo
en el vaina la gente no peca que hay que tener para la gente no con pe y la está checha que arte calle le han tasante na colo mantu añe yo vi mal
No va a costar el torres, Codio.
Ve, agarra los torres, mi niño. Ay, ya, ya, te voy a comer. Saltale a las cocuerras, Codio. Qué ratito.
J'ai choisi de rester ici.
Here, the life goes rather slowly, but
ici, la vie s'écoule lentement.
But you get no stress. You can find books there in the library.
Il y a des livres à la bibliothèque.
Is it there? And when summer and spring, late winter, when the sun is going around.
À la fin de l'hiver,
on the snow fields,
lorsque le soleil tourne
you really enjoy
au-dessus
it.
Des champs de neige, on
late
se sent
winter,
bien.
Sunny days and the same in the summer, which is now not a good time. It is in May, beginning of
fin mai,
June.
Début juin.
The northern winds are blowing. There is no more snow.
Le vent du nord.
But northern winds are blowing and carrying wet snow.
De la neige mouillée.
It is a horrible time.
C'est un mauvais moment.
The end of May and beginning of June. But after that.
Mais après.
Then it is warm somewhere.
L'été est chaud.
You can fish there. And go in the woods, in
on
the mountains.
Peut aller dans les forêts, dans les montagnes.
Just be. Not more. Just living.
Se contenter d'être.
Je sens les pensées cheminer dans ma tête. Des jours passent, d'autres vont venir.
Entendre le temps qui passe, laisser s'étendre l'espace, silence et son, tous deux sont des scénographes, on pourrait dire, tous deux étroitement liés.
Avec mon père, quand j'étais tout jeune, oui, j'ai assisté très souvent à la séparation des reines. Et chacun prenait ses reines dans un petit enclos. Oui. On pouvait vendre les reines et on prenait le marque. Oui, marque aussi sur les oreilles. Quelqu'un qui travaille avec ses reines, il connaît extérieurement, ils sont pareils, un peu pareils, mais ils sont différents, oui. Je connais tout de suite, c'est mon reine.
Thank you. Voyez comme l'Occident se farde. L'éventail crayeux se teint hardiment. L'aigu de la couleur nous rapproche de la source. Le grand absent frileux est toujours là, dans sa fabrique de miel qui se laisse deviner au creux de l'horizon, survolé par un manteau d'abeilles. Mais le jour bientôt tombe en suie et les espèces se nouent. Mais ce n'est pas d'un châle noir que le grand artiste enveloppe toute chose. La nuit, ici, s'est alliée à l'architecte des contours. Et des fantômes un peu livides et fous, le crêpe étincelle.
L'aurore boréale.
C'est un spectacle quand ils commencent avec yellow.
Au début,
color and
c'est jaune. Et tout d'un coup,
all the sky is
le ciel
green and
devient vert.
Lila.
Lila.
And, all
de toutes
color.
Les couleurs.
It came very sudden and then disappeared.
Puis ça disparaît.
They are burning again.
Ça brûle.
Making such speed. Just above your head.
Au-dessus de ta tête.
Going across.
Ça traverse le ciel.
From west to the east.
D'ouest en est.
Because there are two rings of these lights on the, around the earth.
Il y a deux anneaux de lumière
they're
autour
right.
de la Terre.
Le son pur n'existe pas, il n'y a que des situations d'écoute. Et capter des moments de vie, disons, c'est aussi faire entendre ce qu'on pourrait appeler avec Jean-Luc de Godard la vie d'à côté. C'est-à-dire, disons, l'intervalle, l'arrière-fond, les sons de contexte, le voisinage, l'environnement familier. Les sons, par exemple, qui enrobent une parole, disons, de premier plan, qui font pression sur elle. C'est dans un milieu vivant, en activité, que, par exemple, on pourrait dire que la sèche interview va faire place à une rencontre. Une rencontre, un face-à-face qui se double d'un côte-à-côte. Une rencontre, un instant partagé, un moment de confiance avec l'autre. Il y a une belle phrase de Robert Bresson qui dit « Donner aux objets l'envie d'être là. » Objet, être humain. Aborder l'autre, non pas en malin stratège, je dirais, en professionnel de la question, même en inquisiteur, souvent, mais l'autre comme un compagnon de passage, et non plus simplement comme un témoin ou un porte-parole ou un expert, que sais-je. Une espèce de coprésence, une approche, je dirais presque, d'empathie. J'aime citer souvent cette réflexion d'un peintre chinois qui dit « Seul un artiste qui comprend les joies et les émotions d'un saumon franchissant une rivière a le droit de peindre un saumon. » Devenir saumon, c'est magnifique. Et d'ailleurs, si on regarde attentivement un homme en train d'enregistrer, disons un grillon, par exemple, eh bien, souvent vous pouvez voir ses lèvres s'entrouvrir légèrement, remuer un peu, etc. Il est en train de striduler. Il est devenu grillon. Bon, naturellement, cette identification ne peut être que passagère, on pourrait dire. Mais c'est au fond un peu la méthode de l'acteur stanislavskien. Mais, disons, complétée par Brecht. C'est-à-dire qu'au fond, cette espèce d'osmose va alterner avec une prise de distance, une prise de distance nécessaire, bien sûr. Il y a comme ça, comme un mouvement de navette, un peu, un glissement du dehors au dedans, etc., vice-versa, sur une échelle graduée des distances, comme ça, entre les personnes. Et c'est ça, qu'au fond, qu'il faut négocier à chaque fois. La finalité étant toujours, évidemment, d'obtenir chez l'autre une authenticité de comportement, hein, libérée des conventions de la théâtralité quotidienne, la mise en scène de soi, les effets de masque ou de manche, les récitations, etc. Et peut-être, au fond, que c'est dans certaines situations d'urgence, on pourrait dire, qu'on peut entendre justement plus activement ce cri des choses, une expression directe. Alors, le prochain extrait que je propose, Les bons samaritains, c'est le titre du programme, met en scène des êtres totalement démunis, bien sûr, en état de précarité profonde, qui squattaient des maisons délabrées, désaffectés dans une petite rue située dans un vieux quartier de Bruxelles, les Marolles. Rue de la Samaritaine s'appelle cette rue. Et donc, ces personnes étaient, disons, menacées d'expulsion, classique, pour une cause officielle de rénovation, etc. Bon, c'est du reste toujours d'actualité. Bon, des exclus, disons, des membres du quart-monde, comme on dit. Quand on est dans une sorte de réserve, des indiens, samaritains, voilà, et qui crient, aidez-nous, écoutez-nous, voilà, un désir d'écoute, d'être écouté plus. Et c'est le même appel, au fond, que dans la parabole biblique du bon samaritain, d'où le titre du programme. Alors, je propose là un fragment plus long cette fois, pour qu'on ait un peu une idée comme ça d'un déroulement de séquences, au cours desquelles il s'est agi au fond d'accompagner nos samaritains dans leur déambulation quotidienne, et le plus fréquemment d'ailleurs nocturne, avec de nombreuses escales, de maisons en café, de café en café, etc. Et simplement, donc, introduite au mixage, un peu comme un petit encadrement, on dirait, quelques références, citations de la fable biblique. Sans commentaire de surplomb. Le commentaire, j'ai envie de dire, c'est l'ombre d'un rapace au-dessus des sons. Il faut essayer de l'éviter autant que possible. Donc, les accompagner en les incitant aussi, quand c'était possible, à conduire eux-mêmes les opérations. À se faire non plus seulement des protagonistes passifs, comme ça, répondant à des questionnaires, mais des sortes de producteurs délégués, voilà. Et l'un d'eux fait ainsi, à un moment, le guide, il interroge, il commente, etc. Alors, la scène débute par le rêve utopique de l'un d'entre eux, Jacques, qui vient de faire visiter ce qu'il appelle son futur studio, où il souhaiterait disposer d'un émetteur radio, Radio Sama, le titre est déjà prêt, afin d'évoquer les problèmes du quartier, ce qu'est la Samaritaine. Et graduellement, c'est les lois du climax, on pourrait dire, ça va déboucher sur une scène de rue assez pathétique.
En ik kom af in de verte van de Loata. Ik heb mijn plan in mijn mond zitten, maar zit in de. Ik zit op mijn pierre en dat pierre in mijn schoen.
Ce qu'était la Samaritaine, ce qu'est la Samaritaine, ce que sera la Samaritaine. Jacques, à toi. Alors, il reprit la parole et dit.
Voyez-vous, ce quartier, je l'aime. J'ai donné les trois quarts de mon estomac pour ça, parce que j'aime ce quartier. Ce quartier, c'est ma maison.
Tu as donné un quart de ton estomac pour le quartier et tu as donné un quart de l'estomac pour ta boisson.
Ah ben ça, c'était qu'un détail.
Je voudrais tellement que les gens puissent nous aider. Ça me fait mal, voyez-vous. Quand je vois ce quartier, mourir. Il meurt ce quartier. Parce que il n'y a plus personne qui veut nous aider. Plus personne veut nous aider. Et moi j'essaye avec mes amis. Nous essayons. Et ça fait tellement mal. Tellement mal. Excusez-moi, je ne croyais pas.
Alors lui, qui est mon prochain?
Il est très difficile de se faire connaître dans ce quartier. Mais une fois que vous êtes connu, ce quartier, voyez-vous, c'est un petit village où chacun connaît tout le monde. Ce quartier, c'est ma famille. Il y a tellement de bonnes choses ici qu'on voudrait garder. C'est tellement pénible de voir ce quartier démolir, écraser le vieux quartier de Bruxelles. Voyez-vous, il y a tellement de beauté ici.
Quartier, ce que je pense, quartier.
Bon. Je crois que tu es né ici. Hein.
Il y a quelques personnes valables dans le quartier. Ouais. Mais, excusez-moi, mais il y a des pourris dans ce quartier. Des belles personnes dans le quartier. Des bonnes personnes qui savent travailler dans le quartier, mais qui ne veulent pas le faire. Mais nous autres ici, on est des patates parce qu'on a même rénové les maisons. Quand ils ont une fois en vie, une ou deux maisons, et alors on rénove des maisons, et qu'est-ce qu'on fait avec les maisons? On les a un an et demi vite. Et les autres doivent aller où?
Non, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ils ont réparé la maison du 32. Hein, et ils demandent 5 500 de loyer par mois. C'est de trop. C'est de trop et beaucoup de trop. Des buissons. Avec 5 500 francs de loyer, hein, tu savais quoi, hein? Ah ben on vit comme une cloche, on est encore pire qu'une cloche encore. Encore pire qu'une cloche. Celui-là qui fait le trottoir, il gagne encore plus encore que celui-là qui fait tout de la session.
Ici, nous sommes des malheureux, là-bas ils se trouvent heureux.
C'est tout.
Hein? Ouais, nous descendons tout doucement la rue des Chandeliers. Nous allons aller voir Madame Jeanne. Parce que, voyez-vous, il y a une différence entre un pauvre et un malheureux. Un pauvre, c'est un type qui se laisse tomber. Tandis que là, il n'y a rien que des malheureux. Nous allons rentrer maintenant, je vais ouvrir la porte. J'ouvre la porte de chez Jeanne. Madame Jeanne est là. Si Madame Jeanne le permet, nous allons l'interviewer. Madame Jeanne.
Allez, toi, tu veux savoir combien j'ai en poche? Attends, je vais te le dire.
Non, pas ça.
125 francs, passez pour payer un verre.
Madame Jeanne, pourriez-vous nous expliquer ce que ce sont les malheureux du quartier?
Les malheureux, ici, il n'y a pas de malheureux. Qu'est-ce que vous appelez un malheureux?
Un malheureux, un type qui n'a pas d'argent.
Mais ici, ils ne sont pas malheureux, il n'y a aucun malheureux ici. Ils ont tous à boire et à manger.
Voilà. Merci, madame.
Et celui-là continuer... qui est malheureux, c'est qui veut bien.
Pourriez-vous continuer à expliquer cette
non,
chose?
Non. C'est trop tard, je vais dormir maintenant.
Je suis venu ici parce que je suis à l'extérieur pour être un petit peu au chaud.
Oui.
Et c'est tout.
Ah, vous venez ici pour vous faire. Pour être chaud, pour être au chaud, quoi.
Pas vrai.
Vous n'avez pas de logement? Rien du tout.
Non, je reviens...
Y a-t-il quelqu'un qui pourrait vous aider?
Oh, je ne pense pas.
Donc, vous n'avez aucun espoir?
Bon, aucun espoir...
Le prochain du Samaritain. Le Samaritain.
C'est un quartier de malheureux ici. Et ça, je n'aime pas que les gens rigolent de ces gens-là. Comme toutes les maisons à Lure, bon, je crois que je connais tout le monde dans le quartier. Je crois qu'un peu tout le monde a sa valeur dans le quartier, comme il est. Après, qu'est-ce que je sais, c'est un quartier qui doit tomber. Mais les habitants ne sont pas prêts à laisser tomber. Et le jour où il tombera, bien, la ville nous aura sur les bras. Nous, le comité de la Samaritaine, on a demandé à la ville. Pas qu'on les exclue de ce quartier si ces gens-là ils se disent où est-ce qu'on va devoir courir.
Alors, il le vit et en eut compassion. Il le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui.
Des centaines de gens qui dorment dans les maisons qui sont murées, soi-disant murées, mais enfin, ils rentrent là-dedans, des gens qui n'ont plus aucun lien avec, disons, avec la société. Je pense que la pauvreté, c'est d'abord l'impossibilité dans laquelle se trouve un homme d'être autonome. Prenez la Samaritaine. Vous êtes rendu compte, cette rue est très étroite. Elle est très fermée, complètement isolée. Enfin, il faut vouloir y aller pour y aller. Le résultat, c'est qu'un certain nombre de gens qui ont des difficultés profondes à vivre, hein, vraiment très profondes, ils trouvent là un habitat qui est exactement celui qui leur convient. Alors, quand on démolit la rue de la Samaritaine, on démolit pas 3 hectares. Ça n'a aucun sens de parler comme ça. Mais on démolit la vie de personnes bien déterminées qui ont pris racine et qui, là, parviennent à pouvoir s'exprimer et retrouver une place dans la société. Dès qu'on parle de la ville, on parle de la solitude, l'isolement, le type est tout seul, la marée humaine. Alors que c'est complètement absurde de parler de ça. Je veux dire, ça apparaît tout à fait absurde. Je ne dis pas que ce n'est pas une réalité, mais c'est tout à fait contraire à l'idée même de la ville qui est, disait déjà Platon, un établissement commun, donc des types qui décident de vivre ensemble. Bien, dans notre quartier, vous trouvez ce que Platon définissait, un établissement commun, c'est-à-dire des gens qui décident de vivre ensemble et qui veulent vivre ensemble. En allemand, c'est une remarque d'Heidegger d'ailleurs, Wohnen veut dire aussi bien habiter qu'exister. Et ça, je crois que c'est une notion dont vous voyez le vécu ici.
La rénovation est une comédie. Je n'ai pas de salle de bain, et alors? Sinon, je préfère vivre ici sans salle de bain.
La rue du Chandelier.
Oui, on voit l'enseigne de Dick Pierre, et enfin, on voit l'enseigne de Stellard, tu vois. C'est au-dessus de Dick Pierre qu'habite l'accordéoniste.
Henri.
Rick. Ça paraît bien être le comptoir et les petits casiers pour mettre les jeux de cartes qu'on ne voit pas sur la photo, mais qui doivent être à droite.
Maar welke minuut je nemen?
Oh, welke minuut je?
Zit jij beloofd? Nee.
Ah?
Nee.
Ah, voilà. Dat is paard. Kuppen.
Oh!
Mijn anus moet spijen! Nou, mijn anus moet doen. Daar naartoe?
C'est terrible. Je fais 2-3 heures du matin comme ça. Pas moyen de dormir. Hein. Moi, je suis juste au-dessus du café, moi. Hein. J'entends bien ça, moi, hein, quand le jukebox joue.
Très fort.
Oh, maintenant, quoi. Bon, il faut être à quoi qu'ils sont sous ces gens-là, moi, je comprends pas. Moi. La musique fort, moi, j'aime pas ça, c'est pas beau. La musique, belle musique, ça doit être doux. Hein. Bon, on a toujours du bruit. Hein. C'est le quartier ici. Hein. Bien. Ouais, qu'est-ce que vous voulez ici dans le quartier? C'est pas. Il n'y a pas de confort, il n'y a rien. Pas de salle de bain, rien du tout. C'est la vie bohème.
Il y a un vieux poêle là.
Ah ouais.
Il y a un fond pour les tartes, une étuve, on appelle ça.
Ah ouais, une étuve, ouais. Tout est vieux ici. Même l'homme.
Avec des ronds différents pour couper la casserole.
Sans feu, on ne peut pas rester. Là, pas pour quoi. Oh, aïe. Mais il n'y a plus d'amusement comme dans le temps maintenant. Mais il y en a qui se plaignent ici. Ils disent j'ai pas ci, j'ai pas ça, mais c'est leur faute. Hein. Ils ne débrouillent pas, et quand ils ont de l'argent, ils dépensent tout. Moi aussi, je dépense de l'argent, mais je ne dépense pas tout, moi. Enfin, je fais attention que l'église reste au milieu de la place, moi. Hein.
Et alors, qu'est-ce que tu fais de ton argent?
Qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est fait l'argent? C'est pour dépenser. C'est pas pour pour le père François. Bon, longtemps, j'ai une petite bigrée. Et des fois, une grande aussi. Ça dépend. Donc, je vais chez Tony, où je joue là, boire un verre.
Ou plusieurs verres.
Je marche pas sur les jambes. Plusieurs verres, bon, une fois que je suis dedans, c'est fait. Hein. Et sans que j'ai peur de sortir, moi. Quand j'ai bu 3-4 verres, c'est fait. Hein. J'ai le goût, hein. Bon, je suis lancé. Moi, c'est possible. Je vais déjà être mort, moi. Rien que de picoler.
Non, mais tu ne bois plus, on a dit.
Moi, comment, quoi? Oh, je ne bois plus.
Tu ne buvais plus.
Plus si souvent, mais je bois encore, mais plus si souvent, avant, c'était tous les jours presque. Mais plus maintenant. Hein. De temps en temps, une fois une banquette, j'ai fini. Hein. Et le dimanche, alors c'est le coup de grâce. Là, hein. Ah, ça ne goûte pas. Ils ont des genoux. Lundi, c'est dur. Hein. J'ai souffert ce matin, j'avais pensé que j'allais crever, moi. Tu savais pas ce que j'ai bu hier, moi. Oh. Dieu, je crois que j'ai bu un tonneau. À moi tout seul. Oh, ben, ça venait. Mais je ne les compte pas, mais je crois que c'est plus que 40. Hein. Oh, oh, oh. Ouais, mais il faut la boisson, moi, hein, quand j'ai pas bu, ça me dit rien, hein, l'accordéon. Hein. Enfin, oui, j'aime de jouer, mais pas comme si j'ai bu. Quand j'ai bu, alors je vis avec. Hein. Quand c'est la boisson, ça. Hein. J'ai bu quand j'ai bu que quand j'ai. Ben, j'ai deux doigts cassés aussi. Hein. Moi, je vais sauter avec mes basses, moi. Hein.
Tu arrives à jouer?
Bah ouais, moi, je saute. Hein. Ils sont cassés tous les deux, aussi. Ça gêne aussi, hein.
Oui.
Vous jouez. Hein.
Les accords.
J'ai pour moi, c'est comme tout le monde. Hein. Aller au bistrot, blaguer, et de temps en temps, une poule, quoi. Hein. Ça, il faut aussi, hein. Ça fait partie du programme. Mais. Hein. Ben... ça réussit pas toujours. Hein.
Mais dans les barrages, t'as pas l'occasion de rencontrer des belles filles, non?
Ici, des belles filles. belle-fille des buveuses, hein, sans plus savoir voir ici. Et s'ils sont des belles-filles, ils sont des jeunes, alors c'est pas pour ma pomme non plus. Hein. Ça va pas, hein. Je vais quand même pas prendre une 20 ans, moi, hein. J'ai 61 ans, qu'est-ce qu'elle va me dire, hein. Je paye. Bon, non, mais pour avoir une femme sérieuse, il faut aller dans les cafés sérieux en ville, hein, dans le centre. Tâcher de faire connaissance avec quelqu'un, sans savoir. Là, tu peux encore diriger quelque chose, là, c'est bien, mais ici, ils boivent encore plus que nous, les femmes, ici. Vous avez déjà été chez Mascot? Et ces jeunes, bon, il faut aller la nuit, là. Quelle envie.
Tu vois
les femmes qui sont... Tu vas faire pipi à la cour, tu reviens, t'en verras pas qui. Ça, moi, quand je viens à la cour, moi, je bois mon verre, hein, premier, avant d'aller, hein, parce que quand je reviens, il ne reste plus rien. Hein. Et ça restera toutes les nuits, depuis des années, j'en ai connu beaucoup qui sont mortes. Hein. Mortes de fatigue, j'avais des chevilles comme ça. Pas de repos, hein. Ils étaient de la cloche, hein. Sur le banc, hein, restaient sur le banc, hein. Toute la nuit, hein. Des années, hein.
Et à quoi faire?
À quoi faire? À picoler, c'est tout. Et ils tartinent par-ci, ils tartinent par-là, c'était la vie, hein. J'en connais beaucoup de femmes qui sont mortes. Hein.
Tous les soirs?
Pendant des années. J'en ai connu une ici, au moins 20 ans, hein. Elle n'a pas eu de chambre. Sans chambre, 20 ans. Elle est morte aussi. Mais cette fille, oh, elle a souffert.
Ça, c'est le pays du sourire.
Et bien, me voilà quand j'ai vu un peu, car tu sais que je suis car je suis un peu plus gris ce soir. J'ai vu des bleus, des blancs, des rouges. On la trouve partout.
Il y a une femme bien sous le pâté.
C'est une personne qui a un peu bu. Et c'est notre ami Jackie qui veut l'aider à se relever. Non, il n'est pas méchant, il veut l'aider.
Mais
tu crois que c'est du livre, papa? Mais donc, je m'en fous pas.
C'est là.
Mais tu te bouffes.
Ton mari est là.
Oui, mais si elle rentre pas, ça ne...
Appelle le flic.
Voilà, bon, je
J'interromps avant la fin de la scène, quoi. La scène, d'ailleurs, qui, évidemment, qui est assez pénible, mais qui est... Et c'est, en fait, notre guide qui détermine, justement... On arrête, là, maintenant. On arrête. Ça suffit, c'est le drame de la Samaritaine. Bon, alors... De la serre, qu'est-ce que, au fond, j'aimerais retenir, plus que le mot création, disons, c'est un peu un mot flamboyant. Enfin, on crée pas ex nihilo. Mais le mot atelier. Atelier, c'est-à-dire le caractère artisanal. Un atelier, une fabrique, au fond. Pas une usine. Un atelier du cousu humain, on pourrait dire. Un atelier de germination, où on prend le temps donc nécessaire à la maturation, comme dans To Work in Progress. Donc c'est ce travail à l'intérieur du studio qu'on a retrouvé, et pour un long moment. Et donc à partir de multiples réécoutes, d'attentes, de temps en temps on laisse les choses en sommeil, puis on revient, etc., et finalement, c'est le son donc qui va nous entraîner, qui va entraîner le sens, qui va dicter la conduite, qui va vous forcer à le suivre d'une certaine manière. Il y a le titre d'un des programmes qui c'est un aphorisme de Lichtenberg. Deux mouches s'étaient accouplées dans mon oreille. Eh bien, dans un sens, au fond, on pourrait dire que le travail de composition, c'est un acte de copulation. Des sons qui se nouent, qui se frottent les uns aux autres, qui se combinent, parfois se repoussent aussi, bien sûr. Donc c'est l'élaboration dramaturgique, c'est un des moments vraiment essentiels, importants, peut-être l'étape la plus longue, et la plus créatrice peut-être aussi, si j'ose reprendre le mot. Donc c'est-à-dire, au fond, essayer d'introduire de la cohérence dans le désordre du vivant, dans ces espaces distants, ces temps hétérogènes, etc. Non pas rechercher une good story à la mode anglo-saxonne, ou une intrigue au sens classique, naturellement, mais de tracer peu à peu, comme ça, un chemin narratif. Ça peut être un développement conceptuel, une progression émotionnelle, une scansion de récit. Donc moins une histoire qu'une structure signifiante, on pourrait dire, qui met à découvert, donc encore une fois, le cheminement de la pensée. Donc orchestrer des matériaux sonores, composites, etc. Bon, avec des éléments d'appoint aussi, pas seulement les sons originaux puisés dans le vivier du réel, mais aussi des côtes en argent, enfin... J'emploie cette expression à Walter Benjamin qui désigne, lors de cette opération chirurgicale qu'est le montage pour lui, enfin le montage littéraire, mais les mots étrangers insérés dans le manuscrit comme une côte en argent. Il faut aussi apporter des côtes en argent sonores. Et donc, il faut emboîter tous ces éléments. Bon, pas du tout comme un puzzle mécaniquement par accordement successif bord à bord, mais au fond, pas une simple addition, juxtaposition, mais en fait, il s'agit de, à travers une nouvelle redistribution, d'aboutir à un nouvel ensemble, à une entité nouvelle. Et au fond, chaque son, on pourrait dire, est toujours plus ou moins que lui-même. Les sons se jettent des ombres mutuellement. Des ombres directes, distantes, opaques, transparentes, nettes, embrouillées, etc. Ainsi donc s'engage une autre traversée du réel, au fond, un autre feuilletage du temps. La radio est un mélangeur. Un lieu de pluralité, de convergence, de friction. Et donc l'opération dramaturgique, c'est ça, c'est une espèce d'art combinatoire, de mise en réseau, de recherche de connexion, de correspondance, de chevauchements, des écuyages, des accords, des dissonances aussi, un processus de ramification. Interroger le réel, c'est le connoter, et pas simplement le refléter. Et c'est aussi parfois le propulser sur une scène de l'impossible, comme je dirais. Mais et donc d'arriver au bord, à la lisière de... Bon, allez, j'ose le mot, la fiction. Enfin, bon. En fait, il y a un plaisir intense dans la composition. C'est peut-être un des moments les plus captivants. Et je citerai une réflexion d'Eisenstein qui parlait justement de cette extase créatrice qui accompagne le choix des plans et leurs assemblages. Moment essentiel. Alors, je voudrais simplement terminer maintenant par un petit extrait d'un programme ludique, enfin frivole, mais très sérieux aussi dans un sens, qui s'appelle « L'ai-je bien descendu, l'avons-nous bien monté ?» C'est un programme en marge du music hall, vous savez, ce genre théâtral, bon, qui là est analysé, démonté, monté, métaphorisé, etc., moins d'ailleurs au terme d'une approche frontale, comme ça, de la salle face à la scène, mais de biais plutôt, si on peut dire, à partir des coulisses, à partir du sous-sol, des loges, de la cabine de régie, bon, etc. Au sein donc d'un grand nombre de cette espèce de temple parisien, de ce type de show, avec les rumeurs, alors... croisement de musique, de chansons, de danse, de bruit, des paroles d'artistes et d'artisans du spectacle, des sons de répétition, des sons de représentation, etc. En fait, une sorte de fouillis sonore, mais un fouillis sonore organisé. Voilà, donc, l'ai-je bien descendu, l'avons-nous bien monté? Voilà un extrait de ce programme.
Il y a scène, il faut être là, il faut sentir le public. Mistinguet, je viens de voir, les titis sont en haut. Ça va, les titis, le promenoir, ça va. Mais qui dit ça maintenant? Plus personne. C'est les promenoirs qui ont fait les stars. Mais ça n'existe plus maintenant, c'est fini, ça.
Lola Montez.
Biscou, Madame Musidora.
Maria.
Launay, Mansuel.
De Lansfeld.
Monsieur Blondin, enfin, Lansfeld. Beaucoup de gens de l'époque. Comment vous appelez-vous, Marianne?
Volivita.
Non mais Marie... Ah, déjà, oui, elle s'appelle Volupta.
Baba Molenskin, Cutie Pullman, Eva de Bratislava, Judy Palomar, Goody Pentagon, Kiki Zanzibar,
Lola,
Lena Funambule,
Lilia,
Lova Moore, Lusa Matchbox,
Lilith,
Miko Miku, Mooney Trafalgar, Norma Piccadilly, Prima Symphony,
Arda Lilith,
Sophia Palladium, Supra Galaxy, Trucula Bonbon,
Lilum,
Usha Starlight, Vanilla Banana, Victoria Rodeo,
Alila,
Laila, spelled backwards,
Lulu,
Ul-ul.
Lilia.
Polly
Underground.
Lili.
Non, je peux demander deux gramelières à ces Serge.
Non, tout je suis à mon huitième.
Avec ce type-là.
Oh,
quel type?
Vous croyez marcher sur un pied, c'était une épaule.
Quel type?
Oh, les kikos à ma vie, ma chère du gars.
Il faut porter en soi le chaos pour enfanter d'une étoile absente.
Non, on va voir, c'est pas possible.
Ça commence?
Oui.
J'ai deux amours.
Mon pays
et pays. Paris au Paris. La 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 la. La di di la.
Parle toujours.
Dis-toi, à l'air de bouquin pornographe, hein, vicieuse.
Bon vicieuse.
Tiens, Lili, tu peux les suivre.
Zara.
C'était la vraie Miss Tinguette. C'était une belle Miss Tinguette.
Bah, c'est une femme extraordinaire. Paris.
Paris, c'est une blonde aimée de tout le monde. Quoi après? Je me rappelle plus.
Voilà, alors il y avait la phrase de Nietzsche qui avait été citée là, au fond, et qui pourrait très bien s'appliquer au travail dramaturgique à la radio. Au fond, le chaos est nécessaire pour la naissance de l'étoile. Voilà, merci.